Vous écoutez On lit pour vous.
Élections au Québec face au défi des systèmes d'intelligence artificielle. Un texte de Noémie Bocuma, publié dans Le Devoir du 18 juin 2026. En sous-titre, l'institution se dit préoccupée par l'utilisation malhonnête de la technologie en contexte électoral. Le vote faussement annulé dans une municipalité, l'élection d'un maire avant même la fermeture des bureaux de scrutin ou des articles de loi erronés ou inexistants, une variété d'informations erronées générées par l'intelligence artificielle a été repérée par Élections Québec lors des élections municipales de novembre dernier. Un nouveau défi considérable auquel l'institution doit s'adapter en vue du scrutin provincial d'octobre prochain. Élections Québec est particulièrement préoccupée par l'utilisation malhonnête des systèmes d'intelligence artificielle en contexte électoral, par exemple pour manipuler l'information consultée par les électeurs. Fin de citation, précise sa porte-parole Julie Saint-Arnaud-Drolet. Le processus électoral pourrait alors être compromis. Certains groupes d'électeurs risqueraient d'être empêchés de voter, explique-t-elle. L'institution nomme aussi le micro-ciblage comme étant, citation, « un risque démocratique lié aux inégalités informationnelles ». Fin de citation. Le micro-ciblage est une stratégie en marketing politique pour des partis qui ciblent les intérêts précis d'un électeur en exploitant ses données personnelles pour lui transmettre des informations avec une orientation spécifique. Cette personnalisation de l'information entraîne, guillemets, un morcellement de l'espace public, fin des guillemets, qui peut nuire, citation, à la libre circulation des idées et au débat démocratique, fin de citation, selon Élections Québec, en plus de complexifier la possibilité de faire un choix éclairé. Les frontières de l'intelligence artificielle. Si l'institution se dit favorable à une réglementation robuste concernant les systèmes d'intelligence artificielle, elle souligne toutefois que la rapidité de leur développement ajoute une grande complexité. D'autant plus que, citation, les propriétaires ou les exploitants des plateformes numériques se trouvent souvent en dehors de nos frontières, ce qui pose des défis pour l'application des règles, ajoute Élections Québec. Le manque de concertation entre les pays démocratiques est d'ailleurs un des facteurs qui permet aux propriétaires des plateformes numériques étrangères d'ignorer les risques associés au système d'intelligence artificielle MAEO, professeur en sciences politiques à l'Université Laval. Lors d'une conférence organisée par la Commission de l'éthique en sciences et en technologie et l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique à la fin mai, elle a réitéré la nécessité d'entente à l'échelle internationale. La professeure de l'Université Laval insiste sur l'importance du développement de la pensée critique en nommant les institutions scolaires et publiques comme étant des espaces clés pour cette mission. Elle estime également que les organismes de la société civile, guillemets, sont très bien placés, fin des guillemets, dans le développement, guillemets, d'outils de sensibilisation, fin des guillemets, pour vulgariser divers sujets tels que la protection de données et la légitimité des informations partagées par les systèmes d'intelligence artificielle. De son côté, Élections Québec dit s'adapter à cette réalité en centrant la sensibilisation de l'électorat au cœur de son mandat. Assurer le développement de la pensée critique des électeurs québécois est devenu, citation, incontournable pour faire face à la désinformation, précise l'institution, fin de citation. Cette dernière a donc mis en place plusieurs initiatives pour y parvenir. Des outils de communication, des formations gratuites en matière d'éducation à la démocratie et une campagne web pour sensibiliser la population aux élections de cet automne. Par ailleurs, le mois dernier, Élections Québec a fait l'objet de recommandations précises. de la commission de l'éthique en sciences et en technologie, un avis qui portait sur les risques éthiques des systèmes d'intelligence artificielle pour l'intégrité électorale et les débats publics. La commission suggérait notamment à l'institution de mettre en place un comité sur l'intégration électorale afin de gérer des menaces visant les élections, de guider la rédaction d'un code de conduite volontaire, engageant les partis politiques à ne pas faire usage de certaines pratiques facilitées par les systèmes d'intelligence artificielle, et d'analyser les pratiques jugées trompeuses en matière de communication politique. Interrogé à ce sujet par Le Devoir, Élections Québec s'est montré réceptive, déclarant que ses recommandations, citation, alimenteront assurément leur réflexion, fin de citation, compte tenu des prochaines élections provinciales de 2026. Fin de ce texte titré « Élections Québec face aux défis des systèmes d'intelligence artificielle », texte signé Noémie Bocuma, publié dans Le Devoir du 18 juin 2026.
Les courriels de vos collègues rédigés par l'intelligence artificielle. Un texte de Jean-François Berthelet, paru le 16 juin 2026 dans La Presse. C'est votre anniversaire. Vous recevez un courriel d'un collègue que vous appréciez qui va de ses voeux. Une belle attention! Celui-ci contient un long texte profond qui parle d'amitié, cite quelques philosophes et y va d'une référence à votre joueur de hockey préféré. Vous devriez être touché et ému. Pourtant, vous mettriez votre main au feu. Ce message a été rédigé par l'intelligence artificielle. Vous vous sentez alors perplexe et un peu frustré. Ce sentiment est de plus en plus fréquent, et il est épuisant. C'est ce que Jamil Zaki, professeur de psychologie à Stanford, nomme judicieusement la fatigue de Turing. Le test de Turing est l'idée d'évaluer si une machine peut imiter la conversation humaine au point où un humain ne sera pas en mesure de distinguer s'il parle à un robot ou à une vraie personne. Avec l'adoption massive de l'intelligence artificielle générative, on a parfois l'impression de passer cet examen à longueur de journée. Que ce soit sur cette publication, LinkedIn, faussement sentimentale d'un consultant qui fait un lien entre le leadership et son vélo, ou le rapport écrit par un collègue qui sonne vanille et qui ne dit rien de substantiel, votre cerveau se transforme en détecteur d'authenticité. Et cela demande énormément d'efforts cognitifs. La rumeur dit même que certains ont commencé à intégrer des erreurs d'orthographe ou des coquilles dans une malhabile tentative de rendre plus humain leur texte rédigé par la machine. Si c'est épuisant, c'est aussi parfois perçu comme insultant par les collègues. Cela viole un certain contrat lié à la réciprocité sociale. Si j'investis mon énergie et mon temps à lire un long courriel que tu n'as même pas écrit, j'ai l'impression que la personne en face de moi n'est pas réellement présente. Je la récompense de mon attention qui n'a pas été méritée. C'est un peu le sentiment qu'aura un professeur à l'université si un étudiant lui écrit un courriel de 500 mots avec 8 questions pour le travail pratique. S'il a le sentiment que l'étudiant a demandé à l'IA « Voici en pièce jointe mon travail de session. Quelles questions poserais-tu au professeur pour obtenir des informations utiles à l'obtention d'une note parfaite? » le désir de répondre et le sens du travail pour l'enseignement seront profondément affectés. Cela pose aussi un enjeu sur l'efficacité organisationnelle. Connaissez-vous la loi de Brandolini? Elle dit que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des affirmations erronées est beaucoup plus importante que l'énergie pour les produire et les propager. On peut comprendre qu'avec l'intelligence artificielle, on est en plein dedans. De la même façon qu'un avocat devra maintenant investir des ressources à faire la démonstration que la jurisprudence citée par la personne qui a décidé de se représenter seule est mal interprétée, voire carrément inventée. Les collègues qui nous imposent leur production à faible valeur ajoutée génèrent beaucoup de travail pour les autres. Dans une étude présentée dans Harvard Business Review en 2025, on rapporte que les personnes qui reçoivent ce que l'on appelle du « work slop » sont fréquemment frustrées, perplexes et offensées. Cela peut également amener à percevoir le collègue en question comme moins digne de confiance et moins intelligent. Maintenant, comment agir face à ce phénomène? Pour chacun d'entre nous, cela veut dire d'être conscient que si l'intelligence artificielle risque de vous faire économiser du temps dans vos interactions au travail, elle vient aussi avec un risque réputationnel et peut laisser un arrière-goût amer à vos collègues. Cela veut aussi dire que de prendre le téléphone et d'appeler son collègue, solution qualifiée de vieux jeu par certains, pourrait gagner en popularité. Mes informateurs ont même eu vent, récemment, de vœux de mariage qui avaient été rédigés par l'intelligence artificielle. Est-ce une raison valable de se lever et de s'opposer au mariage? Je ne saurais dire. Mais cela m'inviterait à proposer un nouveau rituel, une période de questions du public après les vœux. Car, comme en entreprise, on veut voir ce qui se cache dans le ventre et le cœur, derrière les beaux mots. C'était les courriels de vos collègues rédigés par l'intelligence artificielle. Un texte de Jean-François Berthelet, paru le 16 juin 2026 dans La Presse.
Un élève bâtit un outil pour ses professeurs. Un texte de Mélanie Marquis, paru le 12 juin 2026 dans La Presse. En pleine session d'examen, des enseignants vont obtenir un coup de pouce pour leur correction grâce à un élève de 17 ans. Lou Camilani a reçu la note de 100% pour l'outil d'intelligence artificielle qu'il a développé à l'intention de ses enseignants du collège Jean de Brébeuf. Tout est paisible sur le front nord du Mont-Royal. Sur la pelouse avant de l'école, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, il y a peu d'activité en ce lundi. Une des premières belles journées dans la métropole. Mais voilà, qui dit juin dit examen de fin d'année. Parlez-en à la poignée d'élèves réunis dans un local de classe. Ils s'installent à un pupitre, tandis que Martin Chevalier arrive en faisant rouler le chariot rempli d'ordinateurs portables. L'enseignante de culture et citoyenneté québécoise, CCQ, leur a donné rendez-vous à l'heure du dîner pour reprendre une évaluation. Son regard se dirige vers l'écran de son ordinateur. De quelques clics, il s'assure que tous ont accès à l'épreuve intitulée « Comprendre le capitalisme » selon Jean Ziegler. D'un clic sur le bouton « Anomalie », il pourra voir si un élève s'est évadé de la plateforme pour consulter un site externe ou s'il y a un pépin technique. Ce qui est pratique, c'est d'avoir le concepteur ici, lance-t-il en se tournant vers son élève Luca Milani. Le jeune homme de 17 ans estime avoir consacré quelques 600 heures depuis septembre dernier au développement de sa plateforme Scolaro, qui permet de générer des évaluations et de les corriger. 25 jours environ, donc, passés à programmer dans sa chambre au sous-sol, à la bibliothèque ou encore dans l'autobus. Et c'est un franc succès, résume son superviseur, l'enseignant de français Daniel Deschênes, qui en a fait l'essai avec ses groupes d'élèves. « Ça a bien fonctionné, » dit-il. « C'était la première fois que les élèves vivaient une expérience de correction immédiate par l'intelligence artificielle, et je pense que ça leur a beaucoup plu. » À l'évidence, l'outil a plu à Daniel Deschênes également. Il, Luca, a déjà 100% dans son bulletin, lance-t-il dans un éclat de rire. « Il n'a pas eu besoin d'une grande assistance, » signale l'enseignant. « Je dis que j'ai été son superviseur, mais j'ai toujours été là pour écouter ce qu'il avait à me dire. » Alléger la charge mentale enseignante. Le jeune homme n'en est pas à ses premières armes en matière de programmation. Il a déjà derrière la cravate une autre plateforme propulsée par l'intelligence artificielle, IA. « C'est comme un cheminement, » explique-t-il. « Ça fait plusieurs années que je travaille avec l'IA. Par exemple, pour un site de condo, j'ai ajouté une IA pour aider les gens à choisir leur condo. » Il voit déjà sa passion du web au service d'autres écoles l'an prochain, à commencer par le réseau privé, car c'est plus simple de traiter directement avec la direction qu'avec des centres de services scolaires. L'IA générative ne pourra jamais remplacer le jugement critique d'un enseignant, insiste Luca. C'est dans le souci d'alléger leurs tâches qu'il s'est lancé dans cette aventure. Il y a plein d'enseignants qui ont une charge mentale extrêmement grande, qui ont beaucoup d'élèves ou des élèves qui sont problématiques, dit-il. Mon but, c'est vraiment de donner un coup de pouce à ces enseignants. Des clients satisfaits. De son propre aveu, Martin Chevalier était sceptique, voire inquiet. « Je suis de la vieille école, celle qui aime respirer la poussière de craie », lance-t-il en montrant du doigt le tableau vert. « Même un pas blanc, là, fixé au mur. » Et dans la mesure où on a toujours le contrôle sur la correction tout le temps, même avec la machine, il est ouvert à l'idée d'intégrer Scolaro à sa pratique avec parcimonie. L'enseignant constate par ailleurs que les élèves aussi en bénéficient. Puisqu'ils obtiennent leurs résultats en temps réel, la rétroaction est immédiate. Son collègue Daniel Deschênes est du même avis. Il y trouve une grande utilité pour générer des évaluations formatives, histoire d'aider les élèves à mieux définir où sont leurs problèmes. Craint-il de perdre un certain contrôle sur le suivi des apprentissages de ses élèves en sous-traitant la correction d'une certaine manière? Ça ne m'effraie pas trop, dans le sens où quand on se retrouve avec 108 examens avec la même question et à peu près la même réponse, une IA peut être, à la limite, un peu plus objective, argue-t-il. La plateforme Scolaro devrait être prête à être mise à l'essai dans d'autres écoles en septembre prochain, si tout se passe comme prévu. Parce que les vacances, Luca Milani les passera en partie à programmer dans sa chambre, au sous-sol. C'était « Un élève bâtit un outil pour ses professeurs », un texte de Mélanie Marquis, paru le 12 juin 2026 dans la presse.
Prévenir pour mieux vivre. Un texte d'André Magny, paru le 1er juin 2026 dans Le Franco. Depuis 2015, le docteur Gandalucky œuvre pour améliorer la santé des communautés afro-canadiennes d'Edmonton. Fondateur du Centre de bien-être et de prévention, CEBEP, pour les Afro-Canadiens, il mène un travail de terrain essentiel basé sur l'information, la sensibilisation et la proximité avec les communautés. C'est dans cette optique que depuis 11 ans, plusieurs ateliers sont organisés autour de divers thèmes, que ce soit sur la santé mentale, la prévention de l'hypertension ou du diabète. À raison d'un ou deux ateliers par mois, le docteur Lucky et son équipe vont directement à la rencontre des populations, notamment dans les églises africaines et caribéennes, là où elles sont le plus accessibles. Le dernier en date, à l'automne, au Dalhousie Community Association de Calgary, avait trait au cancer. C'est à la docteur Yvonne Kangong que son collègue, le docteur Lucky, avait demandé de venir discuter de la prévention de cette maladie au sein des communautés francophones d'ascendance africaine et caribéenne. Pour la docteure installée depuis près de 20 ans à Calgary, il ne fait pas de doute que changer de pays est un choc culturel entraînant son lot de répercussions dans le domaine de la santé. Que ce soit au niveau des habitudes alimentaires, du fait de prendre toujours la voiture, donc de moins marcher, ou d'avoir davantage de stress, car plusieurs personnes ont parfois deux boulots, tout cela amène des prédispositions à développer divers types de cancers. Des conférences comme ça, c'est pour nous rappeler que c'est important de prendre soin de soi, dit la docteure Yvonne Kangong. Oser parler de ces problèmes. Car au-delà de l'offre de services, un enjeu majeur demeure, l'accès à l'information. Le grand problème qu'ont les Noirs, c'est de ne pas chercher l'information, souligne le docteur Luki. Une réalité culturelle, selon lui, qui freine la prévention. Dans plusieurs communautés, parler de maladie reste tabou. On ne veut pas que les gens sachent que vous êtes malade, dit-il, évoquant la peur d'être perçu comme faible ou déjà condamné. Cette réticence touche aussi la santé mentale. Si on voit que dans la famille, il y a quelqu'un qui a un problème de santé mentale, on le traite déjà de fou, explique le docteur Luki. Résultat, silence, isolement et absence de suivi médical. C'est précisément pour briser ces tabous que le CBEP agit. Il faut aller parler avec les gens, essayer de leur montrer le bienfait de l'information et la prévention, dit le docteur Ganda Luki, qui est à la tête du Centre de bien-être et de prévention. Un travail de patience, presque de pédagogie culturelle. Le défi est grand chez les nouveaux arrivants, souvent peu familiers avec le système de santé canadien. Les services existent, mais ils ne les recherchent pas, observe-t-il. Le docteur Luki donne l'exemple d'une femme, surprise de recevoir une invitation pour un dépistage du cancer. Elle croyait à tort qu'on lui annonçait une maladie, et qui plus est, son anxiété allait bon train, soupçonnant d'avoir été dénoncée. D'où l'importance d'expliquer en amont les démarches préventives. Maman Elisabeth. Affectueusement dénommée ainsi par Ganda Luki, Elisabeth Kanjok n'en était pas à sa première conférence orchestrée par le CBEP. Originaire du Cameroun, elle est installée à Edmonton depuis 7 ans. Maman Elisabeth considère que la rencontre sur le cancer était très utile, car, selon elle, les personnes présentes ont pu découvrir ce qui cause cette maladie. « Moi, je n'avais jamais entendu parler du cancer avec mes parents. » Outre le fait qu'une telle conférence lui a permis d'avoir de la lumière sur le cancer, Madame Kanjok est ravie que les rencontres du CBEP se déroulent en français. « Le message passe plus vite en français que par la traduction, » dit-elle. Miser sur le partenariat. Pour maximiser son impact, le centre doit tisser des liens. « Notre organisme a besoin de partenaires, » affirme le docteur Luki, qui collabore non seulement avec le RSA ou encore l'ASCFA, mais également avec des organismes d'accueil des immigrants comme l'Alliance Jeunesse Famille de l'Alberta Society, AJFAS. Quant au financement du CBEP, Dr Luki explique qu'il provient des gouvernements fédéral et provincial. Malgré les défis, le Dr Luki reste convaincu de la pertinence de son action. Il souhaite toutefois aller plus loin en mesurant scientifiquement les retombées de ses interventions. Comment mesurer l'impact de ce que nous faisons? La réponse reste ouverte. En attendant, une chose est certaine. Sur le terrain, les mentalités évoluent. Lentement, mais sûrement. Et pour le docteur Luki, chaque prise de conscience compte. Car derrière chaque atelier, il y a une vie potentiellement transformée, voire sauvée. Lexique. Stress. Réaction physique et mentale naturelle face à une menace ou un défi pouvant entraîner divers symptômes, comme la fatigue ou l'anxiété, mais beaucoup plus grave au fil du temps. Dépistage. Examen préventif visant à détecter une maladie comme le cancer ou le diabète. C'était « Prévenir pour mieux vivre », un texte d'André Magny, paru le 1er juin 2026 dans Le Franco.
Les bibliothécaires des prisons fédérales sont sauvés. Un texte de Boris Proulx, paru le 15 juin 2026 dans Le Devoir. Après avoir envisagé de mettre à la porte les bibliothécaires de ces prisons pour économiser de l'argent, le gouvernement fédéral fait marche arrière et annonce qu'il maintient finalement ce service cher aux détenus. Les services de bibliothécaires existants seront maintenus dans les établissements fédéraux et les lettres informant les employés concernés de leur statut d'employé touché sont révoquées, a confirmé le 15 juin 2026 Esther Malot, porte-parole de Services correctionnels Canada. Des bibliothécaires avaient reçu ce printemps un avis que leur poste serait éliminé dans le cadre d'un plan visant à réduire les dépenses du fédéral. Ce projet a choqué des intervenants, employés, parlementaires et simples citoyens, à n'en croire les explications de Service correctionnel Canada, qui dit avoir tenu compte de leurs commentaires. Absents de cette liste sont les utilisateurs de ces bibliothèques, soit les lecteurs qui purgent une peine. En 2025, le gouvernement Carney a donné l'ordre à la plupart de ses ministres de trouver des économies de l'ordre de 15 % de leur budget sur 3 ans. Pour Service correctionnel Canada, cela signifiait des coupes de 75,5 millions de dollars dès cette année 2026-2027 pour arriver à retrancher à terme 132,2 millions de dollars du budget annuel d'ici l'année 2028-2029. Un service important. Les cercles de lecture pour détenus, Book Clubs for Inmates, qui distribuent gratuitement des ouvrages dans les prisons du pays, ont revendiqué lundi cette victoire. Ces bibliothèques sont absolument, extraordinairement importantes pour les détenus. Mais leurs voix ne sont jamais entendues, déplore le directeur général de l'organisme, Tom Best, en entrevue au Devoir depuis Toronto. Son groupe conteste d'ailleurs l'estimation des Services correctionnels Canada selon laquelle une vingtaine de postes de bibliothécaires étaient touchés. Il estime plutôt qu'il existe une trentaine de responsables des 38 bibliothèques dans les prisons fédérales du pays. La bibliothécaire, Romy Otayek, qui a rédigé un mémoire de maîtrise sur la bibliothèque en milieu carcéral québécois, souligne que les détenus n'ont pas accès à Internet. Ils doivent trouver dans des livres les informations de base sur la vie à l'extérieur qu'ils retrouveront un jour. Pour les détenus, la bibliothécaire est une personne de confiance, neutre. Elle ne fait pas partie de l'autorité. La bibliothèque fait partie d'un continuum de services pour la réhabilitation, confirme Frédéric Armstrong, co-titulaire de la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison. Mais bonne chance de s'y retrouver sans bibliothécaire. Une bibliothèque sans bibliothécaire, ce n'est qu'un entrepôt de livres. Au Québec, Service correctionnel Canada est aussi sous le feu des critiques pour son projet de passer la hache dans son programme d'enseignement collégial, pour l'instant repoussé à l'automne pour donner la chance à une dernière cohorte de finir leur cégep en prison. Couper cela, ça veut peut-être aussi dire couper la personne qui était responsable de la bibliothèque, craint Tom Best. Officiellement, Service correctionnel Canada avait pour projet d'éliminer les postes de bibliothécaire tout en maintenant l'accès aux collections de livres pour les détenus. Les normes minimales de traitement des prisonniers de l'ONU, surnommées les règles Nelson-Mandela, dictent notamment le droit des prisonniers à consulter des livres fournis par du personnel qualifié. C'était « Les bibliothécaires des prisons fédérales sont sauvés », un texte de Boris Proulx, paru le 15 juin 2026 dans Le Devoir.